marathon en relais de 3 ou 6 coureurs dans une ambiance de folie. Informations et inscriptions sur maif-equiden-paris.fr. Le Maif Equiden de Paris, dimanche 3 novembre avec RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter librement, chers auditeurs, car Pascal nous dira certainement que c'est un scandale, que c'est truqué. Non, vous êtes libre de voter pour votre débat préféré. À la dernière place, il s'est, j'allais dire, bien battu. Non, on peut pas dire qu'il s'est bien battu. Iniesta, grand entraîneur ou pas, 11%. Écoute, c'est quand même 11%.
C'est la preuve qu'une certaine idée du football est morte.
Bravo, voilà. Julien. À la troisième place, Tchouaméni, capitaine, pour longtemps, oui ou non, 17%, troisième place pour toi. Médaille de bronze, bravo Pascal.
No comment.
Deuxième place, il fait son grand retour, il pensait empocher la mise. Eh bien non, mais c'est une bonne deuxième place, 29%, le foot est-il si indétrônable?
Ouais, on en reparlera, je
pense. Ah ouais, garde-le ce sujet.
Ouais, on en reparlera. Mais c'est super. La victoire de l'NBA.
Fred Weiss avec Vincent Collet en NBA. Et pourquoi faire? Tu vas tout nous dire, tu vas tenter de convaincre les GG, évidemment, avec ton débat. 43% déjà, bravo Fred, à toi de jouer.
C'est un vrai métier. Donc, je vis une vraie révolution. Quand j'ai commencé le basket, aller jouer en NBA, c'était quelque chose d'assez extraordinaire déjà. Être drafté, c'était extraordinaire. Sur les deux dernières années, on a les deux numéro un de la draft. C'est-à-dire qu'en gros, nos joueurs sont enfin représentatifs, ils sont enfin adulés de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que maintenant, nos joueurs ont une vraie place sur l'échiquier mondial. Maintenant, ce qui nous manque, c'est des coachs. Parce qu'on parle beaucoup de la formation française, on dit beaucoup que cette formation est très bonne, preuve en est, on amène de plus en plus de joueurs en NBA, mais on n'a pas de coach. Alors on a déjà très peu de coachs à l'étranger dans le basket européen, c'est-à-dire qu'on a Valérie Garnier entre autres et Pierre Vincent, mais dans le basket féminin, dans le basket européen masculin, il n'y a pas de coach français déjà. Et on se dit, qui de mieux que Vincent Collet pour performer là-bas, pour réussir aux États-Unis où personne n'a réussi. Pourquoi? Parce que il a joué contre Greg Popovich. Greg Popovich le respecte, il l'aime beaucoup et il l'a battu
deux fois.
Greg Popovich deux fois. Donc tu te dis, il y a peut-être quelque chose. Greg Popovich est quand même un des coachs les plus respectés de la NBA. Donc tu dis qu'il y a peut-être une chance. Ensuite, il a eu Kenny Atkinson au sein de son staff, Vincent Collet, c'était son assistant. Et Kenny Atkinson est tombé amoureux fou de Vincent Collet, de son basket, de sa façon de coacher, de sa façon d'être. Et il lui a proposé d'être assistant, d'abord. Sauf que en NBA, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et malheureusement, tu ne peux pas être assistant comme ça sans demander au GM. Le GM n'a pas voulu, sauf qu'il a quand même réussi à l'imposer comme consultant. Et ma question, et la question que je voudrais poser au GG, est-ce que vous pensez, moi je pense que oui, hein, mais est-ce que vous pensez qu'un coach français comme Vincent Collet, qui a montré tellement de choses, qui a eu tellement de médailles avec l'équipe de France, pourrait performer en NBA, sachant que des Scariolo, des Ettore Messina ont rêvé d'avoir des postes, ils ont été assistants, ils n'ont jamais réussi à performer?
Bah moi j'ai une question pour toi, parce que c'est toi qui sais, on dit quand même toujours que ce n'est pas du tout le même basket. Qu'est-ce que lui va apporter que non pas c'est une rigueur défensive plus grande, mais est-ce que la NBA en veut vraiment?
Alors concrètement, il y a un vrai problème avec les coachs européens déjà en NBA. Généralement, il y en a très peu. Il y a Rajkovic qui est le coach de Toronto Raptors, mais c'est à peu près tout. En fait, ce qui se passe avec le basket européen, c'est qu'il y a plus d'espace. Donc quand il y a plus d'espace, ça veut dire que défensivement, peux faire plus de choses, parce qu'il y a des règles beaucoup plus strictes en NBA par rapport à la défense. Donc, je pense que Vincent Collet peut importer cette fluidité, ce jeu collectif. Ce qui se passe en NBA maintenant, on n'est que sur du jeu individuel. Mmh. C'est-à-dire que tu as des joueurs superstars qui ont le rôle de marquer les paniers, d'avoir le ballon en main et d'avancer. Un Vincent Collet, c'est quelqu'un qui arrive normalement à faire jouer une équipe ensemble, qui arrive à travailler ensemble. Alors oui, il a eu des superstars comme Wemby, mais il a réussi à le mettre en valeur.
Oui, mais c'est notre discours franco-français. J'aurais quelque chose à t'opposer sur Vincent Collet, justement, son histoire en NBA qui va commencer. On est très contents, évidemment, pour
comme
lui.
Comme consultant, une semaine par mois.
C'est-à-dire ça.
En fait, il n'est pas dans le staff parce que le GM avait déjà fait son staff.
Et a refusé qu'il y ait un Français qui. Non, mais qu'il ne connaissait peu.
Il n'y a pas d'assistant.
Donc son rôle.
C'est
effectif.
En fait, comme Atkinson, encore une fois, a beaucoup aimé travailler avec Vincent Collet, il a envie de voir sa vision du basket.
Mais il va être là-bas ou il va en Zoom?
Alors, il sera là-bas une semaine par mois.
Est-ce que, pour gagner de la crédibilité en NBA, les coachs français ne doivent pas être déjà très performant en Euroleague. Est-ce que c'est pas une étape obligatoire?
Malheureusement, non. Non, parce que l'Euroleague est pas considérée. Preuve en est, Luka Doncic a été MVP de l'Euroleague et quand il est arrivé là-bas, Charles Barkley a dit c'est qui ce gamin, on connaît pas. Okay. Il jouait contre des blaireaux en Europe. Là, par contre, ça joue vraiment. Il est arrivé, il a massacré tout le monde. Je pense qu'il faut des pionniers, il faut des coachs qui arrivent, qui ont cet impact, qui ont ce soutien. Encore une fois, je parle de Popovic qui est vraiment un vrai soutien pour lui. Je pense que ça peut fonctionner, mais dans la durée, si on a bien un qui est capable de le faire, c'est Vincent Collet.
Tu penses vraiment, parce que quand même Vincent Collet, qui a une très belle carrière en France, c'est un de nos meilleurs entraîneurs que l'on ait connu de notre histoire. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si même le GM des Cleveland Cavaliers, qui est quand même depuis LeBron James, ou même cette franchise n'a jamais été une grande franchise NBA, veut pas de Vincent Collet et qu'ils arrivent à le mettre sur Zoom une fois par mois comme
encore
assistant.
Encore une fois, il n'est pas sur Zoom, il est présent une semaine par mois.
T'as compris. Je veux dire, une semaine par mois, comment tu veux installer Vincent Collet en NBA?
Il faut y aller progressivement, encore une fois. Il faut des pionniers. On n'en a pas pour l'instant. C'est pas comme ça que ça se passe en NBA. Preuve en est, Gershon Yabusele a fait quelque chose d'extraordinaire aux Jeux Olympiques. Il s'est retrouvé à signer un contrat de 2 millions de dollars uniquement en NBA. Il n'est pas sûr de jouer. C'est-à-dire qu'en gros, ça te permet d'avoir l'ouverture, la possibilité de discuter. Il doit faire ses preuves, il doit montrer des choses. Il y a encore beaucoup de travail, mais pour moi, c'est une porte qui s'entrouvre.
Coach, je lui crois.
Assistant au moins, ce qui serait déjà quelque chose de très bien.
Pour que lui-même, assistant, et ensuite, d'accord pour être assistant lui-même.
Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Coup, Sergio Scariolo, le coach de l'équipe d'Espagne, qui est un des plus grands coachs possibles et imaginables pour cette équipe d'Espagne, a été assistant.
Donc en fait, pour qu'il ouvre une porte pour les autres coachs français ou européens, on va dire, pour qu'ils réussissent en NBA, il faut que ça passe en fait par des performances XXL avec l'équipe nationale en tant que coach. Parce que maintenant, de plus en plus d'équipes nationales européennes ont des joueurs qui évoluent en NBA. Et là, à mon avis, les joueurs parlent entre eux et ça gagne leur respect.
Oui, mais il est plus
sélectionneur. Non, Vincent
Collet, capitaliser
mais après,
là-dessus.
Le truc, c'est comment il peut devenir... Il va ouvrir peut-être
non, mais il va capitaliser sur ça, justement, grâce à des Popovic, grâce à des Atkinson qui l'ont affronté, à des Steve Kerr aussi qui l'ont affronté.
Les Américains seront toujours des Américains, et sur tous les secteurs de l'économie, et alors particulièrement s'agissant de basket et de NBA. Mais ce que Fred veut dire, je pense, et je comprends, parce qu'il le voit presque avec des yeux d'enfant, d'évolution, c'est quand même la crédibilité progressive que le basket français gagne pas à pas en NBA depuis 15-20 ans. Je comprends que ça puisse le toucher. Qui aurait pu imaginer ça du temps d'Olivier Saint-Jean, il y a 20 ans, 25 ans. C'est assez extraordinaire. Et ça a été renforcé d'ailleurs, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens de la NBA récemment de manière assez précise. Et le très haut niveau, ça a été quand même un peu renforcé par les JO. Parce qu'ils ont été très impressionnés par deux choses aux JO, par l'organisation des JO, à Lille notamment, la salle incroyable dans laquelle ils ont évolué, et puis malgré tout aussi par les deux équipes de France. Donc il y a le basket français a marqué un point supplémentaire vis-à-vis de ces Américains qui regardent toujours quand même de manière très amicale.
Il faut marquer énormément des points pour pouvoir y arriver. Encore une fois, étape par étape, on va y arriver parce que Wemby a été numéro 1 de la draft, Rizaché a été numéro 1 de la draft.
Beau, dernier point, je trouve beau de la part de Vincent Collet, avec la carrière qu'il a, d'accepter aussi de ce type de rôle, en fait.
Mais il va bientôt faire un sujet. Si jamais il va en NBA et que ça ne marche pas, il y aura un sujet. Est-ce qu'il n'a pas raté sa fin de carrière? Voilà ce qui va être posé comme question ici, sur ce plateau.
On souligne la contribution de Bourg-en-Bresse dans la réussite du basket en NBA, parce que Rizaché, il vient de la GL Bourg-en-Bresse, et Fred Foutou, sélectionneur de l'équipe de France, il vient de la GL Bourg-en-Bresse.
Évidemment, Julien Bennett, qui est bressan et qui nous a fait rêver dans le tennis.
Quand même,
bien sûr, on en parle, c'est très important.
RMC, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
C'est Vincent Moscato. Écoutez le Super Moscato Show du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC. C'est le meilleur show radio du monde avec une équipe formidable et surtout moi, bien entendu.
Le Super Moscato Show du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC. Événement rugby à Toulon avec RMC. Samedi à 16h30, le Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Hero Rugby au Stade Mayol. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Montpellier, samedi à 16h30 à Mayol avec RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Tadej Pogacar, ça y est, c'est lancé à l'assaut. Peut-être une quatrième victoire dans le Tour de Lombardie.
Oui, il n'y a que lui-même hein, désormais qui peut s'auto-battre, j'ai envie de dire, à 45 km de l'arrivée. Avec 47 secondes d'avance sur un trio composé de Remco Evenepoel, de Lennart Van Nedveld et de Henrik Maas.
RMC, la flamme rouge.
Il va pouvoir prendre ce virage sur la droite à 90 degrés. Le lac de Com est derrière lui, la Viale Felice. Cavalotti est à lui, Tadej Pogacar qui a écrasé une dernière fois de son impitoyable main de fer cette année 2024. Tadej Pogacar, 25e victoire de la saison, le épilogue d'une année absolument exceptionnelle.
Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord.
Oh, peut-être pas, on l'espère pas quand même, pas que le début pour Tadej Pogacar. Il est encore entré un peu plus dans l'histoire hier en remportant, vous l'avez entendu, son quatrième tour de Lombardie de suite, hein, du jamais vu depuis 50 ans, et la légende Fausto Coppi. Rendez-vous compte, c'est la 25e victoire de la saison pour Tadej Pogacar, le champion du monde slovène. A une nouvelle fois écœuré la concurrence, désormais au départ d'une course, on ne se demande plus qui va gagner, mais à combien de kilomètres de l'arrivée Pogacar va mettre une raclée lors des championnats du monde. C'était il y a deux semaines, hein, il s'était fait la belle à 100 km de l'arrivée. Le week-end dernier, lors du Tour d'Émilie, c'était à 37 km de l'arrivée. Et hier, c'était à 48 km de l'arrivée. La musique qui fout les jetons. Et cette question, est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Oui ou non? Fred Weiss.
Oui.
Cyril Linette.
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Julien Beneteau.
Et non, pas forcément.
Deux oui, deux non. Avant de débattre, on va retrouver à Com, hein, notre spécialiste vélo, Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Bonjour les GG, bonjour à toutes et à tous.
C'est vrai que le vélo est un sport qui se joue à 150, et à la fin c'est toujours Pogacar qui gagne.
Oui, en Lombardie, Tadej Pogacar a fait ce qu'il a voulu, quand il a voulu. Une attaque à 48 km de l'arrivée dans la montée du Sormano a suffi à étouffer la concurrence. Résultat, un 25e succès en 2024 pour conclure une saison absolument hors norme.
C'est fou, mais moi je suis juste content. Tout s'est bien passé depuis le début de la saison et je suis super content de finir l'année avec une victoire.
Derrière Pogacar, les adversaires ont semblé comme résignés. Deuxième hier, avec 3 minutes 16 de retard, le Belge Remco Evenepoel n'a même pas essayé de prendre la roue du Slovène lors de son attaque, conscient de l'écart de niveau abyssal.
Non, c'est un peu sur la même ligne comme dans le Tour de France, j'ai dû prendre mon propre rythme, donc maintenant dans l'hiver c'est le cas d'essayer de travailler cela pour pouvoir le suivre plus longtemps et pour essayer de terminer devant lui aussi. Et quand on voit le résultat aujourd'hui, il était assez loin devant moi j'étais assez loin devant les autres, donc c'est un peu le même résultat comme dans le Tour de France.
Sa saison terminée, place désormais au repos pour Tadej Pogacar qui entamera sa préparation pour 2025 à partir de la mi-novembre.
Merci beaucoup Arnaud pour ces précisions et ces interviews, hein, venues d'Italie évidemment, correspondant, enfin envoyé spécial sur place là-bas pour le Tour de Lombardie. Est-ce forcément une bonne pub pour le cyclisme? Oui ou non, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est divisé dans le studio RMC. Je vais commencer avec un nom, Pascal Duprat.
J'adore le vélo, mais j'ai répondu non parce que ça m'inspire tout simplement des craintes. Donc voilà, je sais que je ne vais pas me faire des amis, mais j'en ai pas beaucoup. Donc, et ils sont fidèles, donc ils vont rester. Il me semble que le vélo, la prédominance physique est importante. Parce que la dextérité, bon, je veux bien qu'on me dise qu'il est agile sur son vélo, mais bon, il ne fait pas dextère du pédalier gauche, ou enfin, il n'y a pas une technique particulière. Si ce n'est celle de savoir bien sûr se faufiler, mais surtout c'est physique. C'est-à-dire qu'il faut, pédaler plus vite que les autres. Or, il me semble, et ça m'interpelle, que Pogacar, il pédale vraiment trop plus vite que les autres. Parce que 3 minutes 16...
T'aimes pas les super athlètes, toi? T'aimes pas voir des choses
3
magnifiques?
3 minutes 16.
Moi, c'est pour ça que j'aime le
3
sport.
Minutes 16 dans la vie, dans la vue à Evenepoel, ça fait 50 et quelques années que c'était pas arrivé. Un tel écart, tu les as cités tout à l'heure, championnat du monde, ils se promènent. En fait, ils se promènent tellement, ils s'est tellement promené cette saison... que moi, ça m'inspire des craintes. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être pas très bon, parce que ça va réveiller les vieux démons. Voilà mon avis.
Je suis gêné par ça. Honnêtement, je pensais pas que Pascal allait sur ce sujet-là. Oui, il y a toujours eu des suspicions sur le cyclisme, évidemment. Mais soit on dit on a le droit de faire du vélo, soit on dit on n'a pas le droit. Si on a le droit, il a la possibilité de ne rien faire et peut-être qu'il est à l'eau claire et que c'est merveilleux ce qu'il fait. Et dans ce cas-là, moi je vois un super athlète. Je vois quelqu'un qui enthousiasme les courses. Je vois un cannibale surtout, qui n'est jamais satisfait, qui veut gagner plus. Un Eddy Merckx, quelqu'un qui veut montrer à tout le monde que c'est le meilleur, qui part à n'importe quel moment. Honnêtement, une course de cyclisme, point néophyte. je suis désolé, je vais me laver la bouche comme tu dis tout si bien, c'est chiant. Par contre, quand je regarde Poggi en train de faire une accélération folle comme ça, bah, je suis chaud. Je suis, voir un super athlète, moi, ça m'enthousiasme, ça me fait rêver, et je n'ai pas envie d'avoir des suspicions. Peut-être que à tort, en fait, mais je suis
Nadal
tellement
Nadal qui sort de douleur et qui n'arrive pas à marcher sur un court de tennis, eh ben, tu le critiques.
Mais
puis Pogacar,
qui
n'a même pas une goutte de sueur, après 300 bornes, tu t'en enthousiasmes.
Pogacar voilà. domine tout mais le monde, ça m'enthousiasme. Nadal, quand il dominait tout le monde, ça m'enthousiasmait. Quand il a été moins bon, je trouvais ouais. qu'il aurait pu arrêter
à vous. À un moment, c'est ennuyeux en plus, je trouve.
C'est pas vrai ce qu'on dit. Et alors, que jamais je vous entende dire que la Formule 1 est chiante quand il y a quelqu'un qui domine. Parce que c'est exactement pareil.
J'ai exactement c'est le discours pour Verstappen.
C'est exactement
sauf que
pareil.
C'est plus le cas, parce que justement, quand, il y a une émulation
que
et ça a
Nadal,
tout le monde.
Quand, n'oublions pas, c'est que là, on l'encense, etc. Mais que quand Nadal gagnait Roland-Garros trop facilement, chaque année, après année, après année, à un moment donné, le public s'est lassé et en a même été à soutenir Robin Söderling en 2009 pour qu'il batte Nadal. Donc, on parle de publicité pour le sport. C'est très juste ce que tu dis sur Pogacar. Qu'au début d'une course, le cycliste, ça peut être on attend. Et en fait, ça devient intéressant jusqu'à ce qu'il attaque. Et une fois qu'il a attaqué, mais c'est plus intéressant. Donc c'est plus une bonne publicité.
Au championnat du monde, il a attaqué publicité. À 100 km.
Mais oui, mais c'est terminé la course.
C'est monstrueux. Justement, c'est bien pire. Plus, tu sens qu'il
hier, j'ai écouté Arnaud Souk à midi, à 13h. Il a prédit ce qui allait se passer. Il a dit, voilà où je pense que Pogacar va attaquer. Il va y avoir le Komo de je sais pas quoi.
C'est pas bien dur.
T'as vu les images?
À 47 ou à 48 km de l'arrivée. Pour moi, ça va être là la rampe de lancement de Pogacar et on le reverra plus. C'est donc, exactement ce qui s'est passé.
Donc tu préfères qu'on attend les trois derniers kilomètres, qu'il se passe absolument rien, que ce soit
ouais,
une étape.
Un match, on n'est pas là pour débattre, savoir si c'est un grand champion, un grand. C'est fantastique. On est là pour savoir si c'est une bonne publicité pour le cyclisme.
Un grand champion, c'est par définition une bonne publicité pour le sport.
Non, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, il y a deux gros problèmes, c'est qu'il n'y a plus aucune rivalité. Donc il y a juste un Vingegaard au sommet de sa forme, sans pépin. Uniquement sur le tour qui peut suivre Pogacar, et encore. Et la deuxième chose, parce que c'est le cyclisme, et parce que c'est terrible, et que c'est comme ça, et que je reçois un Pascal, quand il y a une ultra-domination dans ce sport-là, forcément il y a une suspicion.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus intéressant de voir Vingegaard dans un petit train passer tout le monde et que ça soit super chiant pendant tout le truc, plutôt qu'un mec qui a
Fred, comme non, mais le panache de Pogacar n'a rien à voir avec celui de Vingegaard.
C'est le panache qui permet ça,
parce que du coup, il peut y avoir une rivalité. Et là, il n'y a plus de rivalité, il n'y a plus rien.
Ça peut revenir la rivalité. Enfin bon, moi je suis troublé par ce que dit Pascal, parce que je sais que c'est un féru de vélo, donc le fait de revenir à nouveau sur le sujet, il y aura toujours cette suspicion et c'est terrible pour le cyclisme. Mais dans ce cas-là, je suis d'accord avec Fred, il n'y a plus de cyclisme, on ne regarde plus, on interdit ce sport parce qu'en gros, le dopage serait indétectable. S'il y a un vrai travail qui est fait sur le dopage, Pogacar, il est fabuleux. Il est fabuleux. Alors moi, je vais revenir sur mes enfants. Ils ont 11 ans, 12 ans, ils sont petits. À 6-7 ans, ils regardaient le Tour de France et ils ne voyaient que Pogacar. Regardez la popularité de ce garçon. Il est extraordinaire. Il communique bien. Il est sain, en tout cas, dans son attitude par rapport au reste du peloton. Il a gagné quand il n'avait pas d'équipe. Il arrive à gagner quand il est au championnat du monde sans équipe. Il gagne maintenant qu'il a une grosse équipe. Et le sport s'est fait de grands champions. De qui on a parlé depuis 2 heures? De Jordan. On a parlé de Zidane. On a parlé de Nadal. Merckx a dit, il est plus fort que moi. De quoi peut-on se plaindre d'avoir dans un sport, je suis d'accord avec Fred, qui parfois est un peu illisible jusqu'à 3 km de l'arrivée, de quoi peut-on se plaindre que d'avoir un champion hors norme comme il est avec ce panache, parce qu'en plus il prend le maillot dans le Tour de France. Moi j'ai connu des Indurain qui gagnaient le Tour de France sans jamais gagner d'étape à part les contre-la-montre. On a connu des tas de coureurs à moitié planqués. Lui il gagne une étape, il prend le maillot,
moi, je
il
vais pas sur le terrain de son panache.
Je
voudrais simplement dire tous les cyclistes professionnels mondiaux s'entraînent de manière conséquente aujourd'hui, s'alimentent de manière conséquente. Ils sont tous fit comme c'est pas permis.
Oui, parce que toi, t'as un doute fondamental maintenant.
Mais, c'est ça qu'on mais parce que même si mon sport est loin, même s'il est important au niveau énergétique, mais il est loin de celui-ci, puisqu'il répond à d'autres valeurs, à d'autres talents, le talent du toucher de balle, par exemple, pour les footballeurs. Mais moi, ça m'interpelle, parce qu'il n'y a que la notion physique ou principalement que la notion physique à maîtriser. Or, je pense que toutes les équipes mondiales, et notamment les françaises, maîtrisent la préparation des cyclistes français. Comment se fait-il qu'ils mettent 3 minutes 16 à Evenepoel ? Peut-être que parce que c'est la dernière course de la saison. Il y a peut-être des états de fatigue. Mais si tu fais sur toute la saison, Tour de France, il n'y avait pas de débat.
Écoutez,
tu savais qu'il allait gagner.
Exact. Non, mais on parle de la publicité pour le cyclisme. L'ultra-domination dans un sport... À un moment donné, elle emmerde les gens.
Mais ça fait pas 10 ans, Julien.
Si
ça dure 10 ans, l'année prochaine, ça sera peut-être différent.
Vous les regardez les courses? Vous les regardez les courses à la télé? Vous écoutez les commentateurs?
Bien sûr.
Ah ouais, et dès qu'il
attaque. J'ai même entendu, il a une moto.
Non. Et là, dès qu'il attaque, qu'est-ce qui se passe?
Pantani dominait tout. Armstrong qui dominait tout.
Les commentateurs. Les commentateurs et les consultants, ils font: ah, ça y est, Poggi attaque, hop, on le reverra plus. Et là, ils disent, bon, ben, il a 1 minute 30 d'avance, bon, ben, il a 2 minutes d'avance, bon, il a 3 minutes. Ils sont désabusés. Et à la fin.
Mais qu'est-ce qui se passait avant?
Avant
3
admiratifs.
Km de l'arrivée, il ne se passait rien.
À l'avant, ils sont admiratifs du panache et de l'attaque. Et après, une fois que l'écart est fait, ben, pendant 1h15, c'est un.
Moi, pendant le Tour de France, ce qui m'a choqué, c'est que tout le monde disait, mais il n'a plus besoin de gagner, il va être tranquille, il va se planquer. Sauf qu'il ne l'a pas fait.
Mais ouais,
et c'est ça qui est génial. C'est qu'il relance l'intérêt sans arrêt. C'est qu'il va gagner l'étape alors qu'il n'en a pas besoin.
Il est génial.
Parce que c'est un cannibale et c'est magnifique à regarder.
Merckx a dit, il est plus fort que moi. Eddy Merckx.
Ça, ce côté-là, ok, cannibale, je le reconnais, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est l'ultra-domination qu'il a, parce qu'il est peut-être plus fort, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas de rivalité. Moi, c'est ça, je pense que, et attention, ça peut perdre en intérêt.
Et je me souviens qu'on avait fait des débats sur le championnat de France, je passe du coq à l'âne, évidemment, mais exprès, avec Cyril, qui nous disait, attention, le PSG, sinon notre championnat va mourir, doit avoir une concurrence.
Mais ça fait pas 10 ans, Pogacar, là, et puis on est sur un sport individuel, on est sur des... Malgré tout ce qu'on retient de nos années à suivre le sport, c'est les grands champions. Il faut pas que ça dure 10 ans, mais quand on a un champion de cette dimension-là, il faut en profiter, je pense, qui en plus a une attitude de coureur qui est toujours vers l'offensive, donc qui n'est pas, je vais gagner le Tour de France,
sur Tour de France, là, il avait perdu les deux fois précédentes.
Mais exactement, mais quand même, il a perdu les deux précédentes.
Faut-il, est-ce que vous arrivez, et là je vais poser la question à Pascal qui est un amoureux du vélo, est-ce que tu arrives à te réjouir quand tu vois, avec les doutes que ça peut entourer d'ailleurs Pogacar ?
Il a le doute, donc c'est mort.
Il y a répondu hier à ses doutes, je vous fais écouter dans quelques instants, mais Jean-Marc veut absolument participer à ce débat, en plus c'est un prénom composé très beau. Jean-Marc, bonjour. Jean-Marc, bonjour. Il a raccroché, il a dit ah oui d'accord, c'est comme ça qu'on m'accueille. Bonjour Jean-Marc. Ok, bon, on embrasse Jean-Marc. Je le salue en tant que prénom composé, c'est pas facile tous les jours, je peux vous le dire. Écoutons justement Tadej Pogacar hier, il répondait justement à l'interrogation de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, qui parlait dans une interview cette semaine où il disait, bah oui, la question sur les doutes de Pogacar, bah, elle n'est pas illégitime, Pogacar a répondu.
Le cyclisme est un sport dans lequel les gens ont fait par le passé tout ce qu'ils pouvaient pour être les meilleurs possibles. Ils ont risqué leur vie et on l'ignore, mais beaucoup sont aujourd'hui sans doute malades à cause de ce qu'ils faisaient dans le passé à leur corps. Aujourd'hui, il n'y a aucune confiance. On espère qu'un jour, les gens recommenceront à y croire. Le vainqueur est toujours suspecté d'être un tricheur, mais peut-être que les gens oublieront le passé et ce que des gars comme Armstrong ont fait. Le cyclisme est un sport suffisamment dangereux pour mettre sa santé en danger. Si on veut risquer notre santé et notre vie pour des années de carrière et souffrir le reste de notre vie, c'est stupide. Mais il y a toujours des gens qui sont jaloux et suspicieux et on ne peut rien faire contre ça.
Évidemment, Pogacar ciblait Pascal Duprat. Jean-Marc, donc au 32-16, on l'a retrouvé. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour, je n'avais pas raccroché, il y avait un petit problème. Je suis d'accord avec... Bonjour les juges, je suis d'accord avec Pascal. Physiologiquement, il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Que Pogacar fasse du bien au niveau du spectacle, au niveau des attaques, ça c'est super. C'est bien, c'est quelqu'un qui a du panache, qui pourrait gagner en faisant moins. Mais par contre, de penser, vous savez, Coluche, il disait pour qu'il ne soit pas dopé pour arriver le 21 juillet, il faut qu'il parte le 1er janvier. Bon, il exagère un peu, Coluche, mais physiologiquement, ce n'est pas possible. Vous qui êtes sportif, vous connaissez la VO2 Max.
Oui, très bien.
La VO2 Max, c'est la PMA par rapport au poids. Donc regardez ce que fait Pogacar en pesant 65 kilos avec les puissances qu'il développe à plus de 500 watts pendant un col. Physiologiquement, ce n'est pas possible. Mais il n'y a pas que lui qui est dans ce cas-là. Même le 8e, le 9e ou le 10e du Tour de France, ce n'est pas possible, si vous voulez. Donc après, c'est du spectacle. C'est un gros spectacle. C'est beau. Mais après, qu'on pense, pour moi, Pogacar aujourd'hui, il en fait un peu trop, mais c'est sûr que quand on a la facilité comme il a de gagner, c'est difficile de ralentir. C'est difficile dans une bagnole de ralentir.
Est-ce qu'on dirait la même chose s'il était français ?
Je pose la question. Hein. Non, mais moi je suis pas du tout chauvin. Je suis pas. j'aime la France, mais je suis pas du tout chauvin. Honnêtement, c'est un beau spectacle. Moi, j'adore Pogacar parce que c'est un mec, c'est un teigneux, c'est un puncher, c'est un mec qui anime les courses, qui pourrait se contenter de rester. Ça, de ce côté-là, il y a pas de problème. Mais par contre, après, le côté suspicieux, on est obligé de l'avoir. Puis même si vous connaissez, regardez la VO de Max. Regardez, il a mis 3 minutes à Armstrong sur Saint-Lary, sur le col de Saint-Lary. 3 minutes sur 28 minutes. D'accord.
Oui, mais on te répondra que c'était pas le même matériel qu'il y a 20 ans. Ça, pour le coup, c'est pas le même matériel. Hein.
Non, mais attendez, moi je fais beaucoup de vélo. Armstrong, c'était pas 1910. D'accord. C'était les gens sont entraînés, comme dit Pascal, les gens aujourd'hui sont tous entraînés pareil. Alors bien sûr, il y en a toujours des meilleurs que d'autres. Moi, j'ai la chance d'avoir une bonne génétique. J'avais 82 de VO2 max. C'est énorme, 82 de VO2 max.
Tu l'aimes bien, Max, toi, non?
Comment?
Non, vas-y, je suis le
Max. Il est libre, surtout.
Il est libre, Max. Il y en a qui l'ont mieux volé. Non, mais je peux vous assurer, j'ai rien contre attention pour Gazard. Moi, je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Ça donne du plaisir, tout ça. Mais après, il faut être sérieux. Si on parle sport, si on parle. Ils sont pas l'eau minérale.
Après, c'est ton avis, Jean-Marc, et on le respecte. Évidemment, il y a toujours des doutes. T'arrives quand même à prendre du plaisir, toi qui adore le vélo, Pascal, ou ça devient dur, en fait?
Prendre marque, juste rapidement. Mais en fait, c'est pas la jalousie qui me fait parler. Je voudrais pas être à leur place. Mais à force, comme tu sais déjà le résultat à l'avance,
tu perds la passion.
Tu perds la passion, oui.
Ok.
RMC, les grandes gueules du sport. Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Rendez-vous tout à l'heure pour Apolline Matin dès 6h30 sur RMC. Toujours de l'info, toujours du débat, l'interview, le face-à-face pour cette année qui promet d'être particulièrement importante du point de vue politique. La période demande plus que jamais, non seulement de l'information, de la clarté, mais aussi de vous entendre, vous, et vous aurez toujours la parole. Vous êtes chez vous au 32-16 dans Apolline Matin. Alors je vous dis à tout à l'heure, 6h30 sur RMC.
Ah non, moi je prévois plus une semaine entière de repas pour 5 dans une kitchenette sous-équipée. Moi, le ski, c'est fini.
Même chez Bellambra.
Si vous me dites pas tout de suite.
Ne profitez que du bon côté du ski avec nos formules restauration. En ce moment, jusqu'à -20% sur votre séjour au ski sur bellambra.fr. Bellambra Club, au plus vrai des vacances.
RMC Basket. L'Euroleague débarque à Paris. Découvrez le meilleur du basket européen à l'Adidas Arena et soutenez l'équipe du Paris Basketball dans cette première saison historique. Plus d'infos sur parisbasketball.com avec RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est sur l'émotion, c'est sur l'instant, c'est sur l'instinct.
C'est le départ du pont, attention, essai. Antoine Dupont, 48ème minute. Attention, 4 minutes de jeu après son entrée.
Capozzo qui revient à l'intérieur pour qui? Pour Antoine Dupont. Le deuxième essai.
Capozzo qui met un coup de pied à suivre. Qui est là?
Qui c'est qui
est là?
Qui
c'est
qui
est là? Qui va marquer? Qui va marquer? Le triplé. Antoine Dupont. Mais c'est fou, c'est pas possible. Il n'est là que depuis quelques minutes. Il a mis un triplé.
Eh oui, moment exceptionnel hier sur RMC avec ce triplé d'Antoine Dupont. Alors après, Dupont à 7, Dupont à Los Angeles, Dupont qui s'essaie au football américain, Dupont qui fait du Airbnb. Voici Dupont qui détruit Clermont. C'est ce qu'on appelle un retour fracassant. 3 mois après son dernier match en top 14, le champion olympique était sur le banc. Il est entré et vous l'avez entendu, il a réalisé un triplé inouï en 9 minutes. Mais le débat, c'est un petit pas de côté que nous allons faire. Parce que c'est enfin une bonne raison de s'enthousiasmer avec le rugby français, avec le 15 de France. Enfin, une bonne raison de retrouver les Bleus dans un mois pour la tournée d'automne. après un été noir. Avec son aura, Antoine Dupont peut-il faire oublier les affaires ? C'est notre débat. Oui ou non ? Fred Weiss.
Oui.
Pascal Duprat.
Non.
Julien Benneteau.
Oui.
Cyril Linette.
Oui.
Pascal, pourquoi non ? Tu commences.
Mais parce que l'été a été terrible pour le rugby français et ce serait, à mon sens, pardon les gars, mais oublier trop vite ce qui s'est passé. Donc non, il y a notamment la mort d'un gamin et il y a des choses incroyables qui se sont passées pendant cet été-là. Et même si Dupont est un extraterrestre, même si ça va nous faire penser à autre chose concernant le rugby qu'à cet été noir... Il est toujours là, il va falloir que les instances elles fassent en sorte que ça ne se passe plus, surtout.
Et je vous pose cette question parce qu'on sait que dans un mois, on va retrouver pour la première fois Fabien Galthié, qu'il va être évidemment sommé à un moment donné de répondre sur cet été noir, lui qui a eu une communication assez légère, hein, il a été plutôt absent, et c'est vrai qu'on avait déjà parlé dans cette émission de ce silence. Et puis là, Antoine Dupont, peut-être que pendant un mois, il va s'accaparer justement l'image du rugby et cette façon aussi de retrouver notre équipe de France. C'est aussi pour ça qu'on vous pose cette question, Julien.
Il ne va pas s'accaparer l'image du rugby parce qu'il n'est pas comme ça, Dupont. Il va mettre le collectif avant tout, etc. Là où je... Sur les affaires, je mets un bémol. Je pense que Jégou Radou, ça va le faire oublier. Que Dupont soit de nouveau là, le capitaine du 15 de France, il va y avoir des performances sur le terrain, on va reparler du sportif, etc. La mort du jeune international moins de 18 ans, là, oui, effectivement, on ne peut pas oublier ça. Mais... je pense que effectivement, la première conférence de presse de Galthié va être sur cet été, là-dessus. Après, il va vouloir vite recentrer les débats sur les trois matchs du test de novembre qui vont se passer. Et je pense qu'avec Dupont, en tant que capitaine exemplaire en dehors sur le terrain, mais ça va.
Donc Dupont, ça va le servir.
Ça va servir
dans sa communication.
Bien sûr, évidemment.
Ça dépend de qui on parle. Si on parle des médias, bien sûr qu'ils vont aller chercher Fabien Galthié sur les sujets de cet été. Si on parle de l'élection à la fédération de rugby qui s'annonce quand même assez incertaine, qui est tendue, bien sûr que ces sujets dramatiques, on pourrait aussi parler de Jaminet quand même, hein, et de ses déclarations, vont revenir en haut des sujets. Si on parle de l'opinion publique, je l'ai toujours dit, je le continuerai de le penser, le rugby est indestructible. Vous avez des dîners chez vous, des gens vous parlent de ces affaires-là. On vous parle de Mbappé à Stockholm comme s'il avait effectivement
même
comme
là,
s'il avait tué Pierre Hermé. Non,
ça a franchi un cap.
Non,
quand même,
moi je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que le rugby,
l'information tout l'été. Alors c'est pas très grave.
Non, le rugby
par rapport à l'image,
par rapport aux partenaires,
ce n'était pas que dans les médias de sport. Je suis désolé.
Par rapport aux partenaires du rugby, par rapport aux partenaires du rugby, par rapport à la Vox Populi, par rapport aux audiences du rugby, par rapport aux dîners en ville, je ne crois pas du tout. Je pense que ça va reprendre son cours normal, comme toujours pour le rugby. D'ailleurs. C'est la chance que le rugby a. Et voilà, ça, et c'est parfois une limite parce que
est-ce que tu penses que c'est vraiment toujours une chance parce que tu peux pas avancer?
C'est les deux.
C'est juste comparable au cours de la vie. La vie, elle est faite ainsi, tu oublies les choses. Donc le rugby n'échappe pas à la règle. Mais malgré tout.
Tout est monté en épingle dans la société aujourd'hui. Le rugby,
c'est un sport exceptionnel. J'adore ce sport-là, mais cet été. Ça a dû être dur à vivre pour eux.
C'est parce que toi tu l'aimes vraiment. Et quand on l'aime vraiment,
je pense que ceux qui aiment le rugby, ceux qui viennent voir l'équipe de France au Stade de France pendant le tournoi Destination, sont de vrais amateurs de rugby, encore plus que moi. Ils sont touchés dans leur chair, à mon avis, cette fois-ci.
Moi je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a des choses effectivement qui ont été monstrueuses et il ne faut pas oublier sur
ce sera le rôle des mais qu'on mette de côté le drame avec le jeune Nargissi, parce que là moi je parle du 15 de France et le 15 de France ça concerne Melvin Jaminet et ça concerne
Orado
et Jégou.
Dupont c'est un saint. J'ai l'impression qu'on a envie qu'il la pose les mains sur nous parce qu'il est fantastique, parce qu'avec l'équipe de France à 7, il a une médaille olympique. Tout ce qui fait
le
France
en Nord.
Mais c'est pour ça que je te réponds. Ouais. Pour moi, quand t'as Dupont dans ton équipe, tu oublies tout. Encore une fois, je vais laver ma bouche, désolé. Hein. Toutes les saloperies qui ont pu être faites ou dites, ce n'est rien en comparaison avec l'aura de Dupont. Dupont blanchit tout le monde, nettoie tout le monde. C'est le gendre idéal. C'est le mec qu'on a envie d'avoir dans son équipe. C'est le mec qui, dès qu'il touche les choses, ça devient de l'or. Pour moi, tu oublies tout avec Dupont.
Par rapport à ta question, donc je vais modifier ma réponse. Si tu me dis que la mort du jeune international. Il faut la mettre de côté parce que tu voulais nous parler du 15 de France, uniquement du 15 de France. Alors à ce moment-là, je te dis que Dupont, il va faire en sorte de laver les affronts, ça ouais. C'est sûr.
Ok. Ouais,
alors là, alors je me rallie à la cause de mes collègues.
Ok, bah je vais quand même être contre vous, alors non, pas du tout. Julien Beneteau.
J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, oui, je pense que le rassemblement va arriver, il va y avoir une énorme mise au point. Déjà, ça a été fait par le président actuel et par Jean-Marc Lhermey. Il va y avoir des règles sur l'avant-match.
Oui, mais est-ce que Dupont, si on l'affiche comme ça, c'est la garantie quoi.
Non,
c'est la garantie,
lui,
que ça a changé.
Non, mais c'est pas que ça a changé.
C'est le Joker, j'ai le Joker mais, Dupont et ça passe.
On va voir. Est-ce que cet été, Baptiste Serin était capitaine. Il a dit, les gars, on sort, etc. Mais après, on rentre. Et on rentre et il y en a qui sont quand même ressortis derrière. Bon, je pense que Dupont. Il va leur dire une fois. Et s'il y a encore des écarts qu'on ne saura peut-être même pas,
alors,
ça sera terminé.
Attends, parce qu'il y a
moi,
un débat.
Je voudrais ajouter quelque chose.
Le capitana, oui, il doit retrouver.
J'allais le dire.
Il doit retrouver le capitana.
On oublie, c'est pour ça que Dupont, c'est un extraterrestre sur le terrain, mais aussi en dehors.
Bien sûr.
Parce que c'est l'image du gendre idéal. Mais malgré tout, il a laissé tomber ses collègues le dernier tournoi des Six Nations pour se préparer pour les Jeux Olympiques à 7. Donc tu crois qu'il va dire à tous ses potes, sûrement, tellement il est meilleur que les autres et tellement il est bon. Parce qu'il a l'air bon. Moi, j'écoute le président du Stade Toulousain quand il parle d'Antoine Dupont, franchement, mais il prononce des mots, ça ne peut être que vrai ce qu'il dit. Ouais. C'est un super gamin.
Je pense qu'ils avaient préparé l'absence de Dupont. Ils l'ont géré.
Oui, mais ça, on ne va pas y revenir. Moi,
je ne suis pas d'accord avec mes collègues. Moi, je pense que son aura aux Jeux Olympiques, alors oui, il les a abandonnés pour le tournoi destination. Ok, sauf que son aura aux Jeux Olympiques a gagné.
Bien sûr.
Tellement.
Mais oui, il a gagné.
Mais bien sûr. C'est capital pour le rugby, finalement, qu'il les fasse.
Il a gagné.
Donc, il est renforcé pour reprendre le brassard.
Ah oui.
Ah oui.
Ah, mais oui.
Comptez sur moi, il y aura un débat dans les prochaines semaines, c'est dans un mois la tournée.
Vous prenez pas de mon débat pour l'équipe de France de foot et vous voulez que je vous parle du brassard de l'équipe
de France. Typiquement, rigoler, cette émission pour toi, quand tu auras ce débat, je sais que ça, tu seras présent dans cette émission. Mon cher Pascal, mais phénomène Antoine Dupont qui rentre hier, on n'était pas sûr d'en parler, on ne savait pas s'il allait jouer ou que quelques minutes et en 9 minutes, il réalise un triplé. On voulait vous faire écouter cet extrait, c'était hier donc sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. Les grandes gueules d'RMC ont 20 ans.
Et il y a 20 ans, en 2004, à la radio, on écoutait ça. Écoutez bien RMC.
Dès que vous entendez un de ces titres de l'année 2004 sur RMC,
envoyez GG par SMS au 732-16.
Les grandes gueules vous offrent jusqu'à 5000 euros. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
En 91, les échos évoquaient déjà la voiture électrique pour tout le monde. En 97, les échos vous annonçaient déjà l'émergence d'Amazon. En 2018, on vous parlait déjà de l'impact de l'intelligence artificielle. Et si vous lisiez l'avenir dans les articles d'aujourd'hui? Les échos, prenez un temps d'avance. Abonnez-vous dès maintenant.
Dimanche 3 novembre, rendez-vous au pied de la Tour Eiffel pour une course mythique en plein cœur de Paris avec RMC. Inscrivez votre équipe au Maïf Equidène de Paris et parcourez la distance du marathon en relais de 3 ou 6 coureurs dans une ambiance de folie. Informations et inscriptions sur maif-equidène-paris.fr. Le Maïf Equidène de Paris, dimanche 3 novembre avec RMC.
C'est Vincent Moscato. Écoutez le Super Moscato Show du lundi au vendredi de 15h à 18h sur RMC. C'est le meilleur show radio du monde avec une équipe formidable. Et surtout moi, bien entendu.
Le Super Moscato Show du lundi au vendredi, 15h-18h sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC.
Les grandes gueules du sport et vous.
Le 32-16 pour participer à cette émission et venir affronter une GG. Thierry, tout d'abord au 32-16. Bonjour Thierry.
Bonjour les GG. Bonjour à tous.
Alors Thierry, on affronte qui aujourd'hui?
Je crois que je vais affronter Fred, j'en suis sûr même.
Fred Veil, sur quel débat? Juste l'intitulé, juste le nom?
Bah, sur le débat du départ à la retraite de Rafael Nadal.
A-t-il raté sa fin de carrière? C'était oui. Exactement. Pour Fred Veil. Voici ce qu'il disait tout à l'heure.
Le constat peut être un peu difficile, hein, mais quand on est une superstar, une légende, un joueur aussi monstrueux, on s'attend à ce qu'il termine en apothéose. Alors, beaucoup de mes collègues ici me diront que tous peu ont réussi à partir au bon moment. Il n'a pas réussi, Rafael Nadal. Et c'est pas parce que les autres n'ont pas réussi qu'il n'aurait pas dû le faire, lui.
Thierry, Fred est à toi.
Bon, bonjour Thierry. Bonjour Fred. Bon, je voulais aussi remercier Pascal Duprat pour son soutien à Rafael Nadal, déjà. Je suis pas toujours d'accord avec Pascal, mais là, pour le coup, on est dans le bon camp. Alors Fred, je dis, on ne touche pas à la légende Nadal. Il est intouchable, déjà. C'est radical et il n'y a pas de débat. Moi, je pars du principe que, alors pour vous expliquer, mon métier, moi, je suis formateur indépendant et je forme des travailleurs indépendants qui sont des commerciaux. Et j'ai créé un module de formation qui s'appelle « Le commercial est un sportif de haut niveau ». Je me sers de la légende Rafael Nadal sur l'état d'esprit, la préparation, la mentalité, l'abnégation, etc., etc. Toutes les qualités que je mets en parallèle avec mes modules de formation. Et moi, je pense que Rafael Nadal a géré, en fait, son départ à la retraite un petit peu. Pour moi, il ne l'a pas géré. En fait, il ne partait pas à la retraite dans sa tête. Il a géré comme ses matchs. Rafael Nadal, on a vu des matchs où il était à la rue, il perdait un set, on se disait, qu'est-ce qu'il a, il est foutu, etc. Et en fait, il revenait dans le match et il gagnait le match à la fin. Et je pense qu'il a géré sa fin de carrière de la même façon. Il a été sincère quand il a parlé donc de vouloir continuer, de vouloir voir si ça irait mieux, de se remettre en forme, etc. Il était sincère.
Ok, la sincérité.
Il était dans un match.
Est-ce que tu peux répondre là-dessus, sur la sincérité, Fred ?
Clairement, il a été sincère, sauf qu'il s'est menti à lui-même. Et c'est ce que font la plupart des sportifs de haut niveau. C'est qu'on croit qu'on est au-dessus, qu'on a un ego supérieur aux autres et qu'on peut revenir à n'importe quel moment. Il n'a pas réussi et je suis désolé. Étant fan, moi aussi, de Nadal, et je peux comprendre absolument qu'on aime et qu'on n'avait pas envie de l'écorner, il y a toujours débat. Et ensuite, pour moi, quand il termine comme ça aux Jeux Olympiques, alors que tu vois que Djoko est obligé de freiner un petit peu pour le laisser prendre quelques points un petit peu, je trouve ça très triste et je pense qu'il ne méritait pas ça. Je pense qu'il méritait une sortie beaucoup plus incroyable, triomphale que ce genre de sortie. Voilà,
et c'est pour ça que c'est raté.
Et c'est, pour ça, c'est okay. En ça que c'est raté. Mais encore une fois, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier, ça arrivera à d'autres, c'est très difficile d'arrêter au bon moment. Et je suis très content que tu sois formateur et que tu parles des sportifs de haut niveau parce qu'effectivement, cette mentalité est importante, mais parfois, ça nous empêche d'arrêter au bon moment.
Il est malin, il arrive à se mettre Thierry dans la poche. Merci Thierry d'avoir été avec
Merci
nous.
Merci à vous.
Merci,
à bientôt sur RMC. Kevin nous appelle également. Bonjour Kevin.
Salut JC, salut Grande Gueule.
Ah, Kevin, un habitué de cette émission, je reconnais la voix. Kevin, on s'attaque à qui aujourd'hui ?
Eh bien, à Pascal et à Julien sur le sujet Pogacar.
Ok, alors pour eux, c'est une mauvaise publicité pour le cyclisme. Voici ce que disait notamment Julien Benneteau. C'est très juste ce que tu dis sur Pogacar, qu'au début d'une course, le cycliste, ça peut être on attend. Et en fait, ça devient intéressant jusqu'à ce qu'il attaque. Et une fois qu'il a attaqué, c'est plus intéressant. Voilà, c'était court, c'était concis. Kevin, il t'écoute.
Oui, alors moi je suis pas du tout d'accord. Déjà, on parle d'une domination sur une saison. Rappelons-nous que, comme je crois que Fred l'a dit tout à l'heure, il n'a pas gagné le Tour de France 2023. Il avait perdu d'ailleurs les deux derniers. C'est pas vrai de dire que quand il part, il est jamais rattrapé. C'est vrai sur la fin de saison parce que je pense que tout le monde est cramé et que lui avait clairement calé un pic de forme sur des championnats du monde et sur le Tour de Lombardie. Sa saison est organisée comme ça, ce qui n'est pas le cas d'autres coureurs. Je pense que notamment comme Evenepoel. Et si on se rappelle un peu le Tour de France, il y a des fois où il était à la limite de se brûler les ailes. Quand il attaque dans le Lioran, l'étape du Lioran, on pense qu'il va écraser tout le monde et qu'il va mettre 3 minutes. Et puis en fait, Vingegaard revient dans sa roue, ils finissent tous les deux et on se demande même à un moment donné si Vingegaard va pas le lâcher. Sur le championnat du monde, si les Belges et les Hollandais courent un petit peu mieux, c'est pas impossible qu'ils revoient Pogacar parce qu'il y a un moment où les deux coureurs derrière, je crois qu'il y avait Tom Skuns si je me souviens bien, reprennent également du temps. Donc en fait, il y a toujours un peu de suspense avec Pogacar. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il y a d'autres coureurs sur les 10-15 dernières années qui avaient cette capacité de créer ces gros écarts, mais qui couraient juste différemment, qui couraient à l'économie, ce qui rendait les courses vraiment ennuyeuses. Et là, pour le coup, on a un coureur qui, oui, quand il a la possibilité, quand il est le plus fort, il le montre, il fait des gros écarts.
Et qui est un peu fou, et justement qui casse les codes.
C'est ça.
Ok.
C'est ça, tout à fait.
Vous pouvez répondre, Julien.
L'histoire des pics de forme, je pense que au Tour de France, tout le monde a, en tout cas les favoris, planifie leur fameux pic de forme à ce moment-là. Il a, même s'il n'a pas écrasé toutes les étapes, il en a gagné quand même 5 ou 6, je ne sais plus. Il a gagné le Tour de France avec 5 minutes d'avance sur Vingegaard. sur si les coureurs sur le, ceux qui ont dominé dans le passé et qui couraient pas pareil, je pense tout simplement c'est parce qu'ils avaient pas les mêmes moyens physiques que Pogacar. Ils couraient à l'économie.
Courir à l'économie, ça n'existe pas. Cycliste professionnel, je pense sincèrement que ça.
Non, mais on reprochait aux leaders de se cacher souvent et d'attaquer.
On court à l'économie. T'as déjà fait du vélo, Kevin? Tu fais du vélo?
Oui, je crois que Kevin fait du vélo.
En compétition. Quand je dis courir avec l'économie, peut-être que je vais corriger ce que j'ai, c'est courir avec de la prudence. Qui courait prudemment et qui, par exemple, voilà, qui attendait le dernier col, voire le dernier kilomètre pour attaquer. Et donc, on avait des coureurs prudents, ce que Pogacar n'est pas. Et dans le passé, ça lui a coûté des courses, ça lui a coûté des victoires. Après, je vais mettre un bémol quand même sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui peut faire que ça peut devenir ennuyeux. C'est qu'au début de sa carrière, Pogacar n'avait pas une grosse équipe. Et finalement, le fait que lui soit très fort, mais qu'en face, il y ait des équipes plus fortes, du coup, ça a rééquilibré les forces. Le fait que aujourd'hui UAE soit certainement, en tout cas sur les grands tours, l'équipe la plus forte, là ça peut devenir ennuyeux. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné arriver sur des systèmes de salary cap comme en NBA sur le cyclisme, de manière à réguler un petit peu ça et qu'on ait un rapport de force au niveau des équipes qui permet justement de compenser ces coureurs qui sont un ton au-dessus.
Ben voilà un sujet intéressant. On sera avec Marc Madio la semaine prochaine. Il fera tout le week-end avec nous. Et évidemment, on lui reparlera de Tadej Pogacar. Merci Kevin d'avoir été avec nous. Arrivez à vous rejoindre tout de même, que si ça dure trop longtemps, là ça peut commencer à devenir ennuyeux. Il y avait Jonathan qui nous appelait, mais là on n'a plus le temps et je suis vraiment désolé, Jonathan, qui voulait en plus. Je crois pas. Il voulait en plus nous reparler de basket. Et là, alors on a plus le temps, Jonathan. On peut plus parler de basket autant de fois dans cette émission. Merci Fred Weiss d'avoir été avec nous et bravo pour ta contre-attaque. Merci Pascal Duprat. Merci Julien Beneteau.
Merci.
Et merci Cyril Linette.
Merci,
un retour que l'on apprécie. GG un jour, comme on dit, GG toujours. Merci d'être avec nous dans cette émission.
RMC, les grandes gueules du sport. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Bonjour, c'est Charles Magnin sur RMC.
RMC, Charles Matin.
On se retrouve tout à l'heure, dès 5h, en direct pour Charles Matin. Toute l'info, tous les sujets de votre quotidien, avec toute la bande. Géraldine Demory, Manu Le Chypre, Amélie Rosic, Anthony Morel. Et vous, à tout moment, au 32-16, on se réveille tous ensemble pour toute l'actu et votre dose de bonne humeur. Rendez-vous dès 5h sur RMC.
Événement rugby à Toulon avec RMC. Samedi à 16h30, le Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Euro Rugby au Stade Mayol. Place en vente sur rctoulon.com. Toulon-Montpellier, samedi à 16h30 à Mayol avec RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On va tout de suite s'intéresser à l'initiative du jour et c'est celle de Nicolas Maduro, le président du Venezuela, qui a décidé de démarrer les festivités de Noël le 1er octobre, c'est-à-dire avec presque 3 mois d'avance. L'idée est de retrouver du calme et de la sérénité dans un pays en crise. Rémi, est-ce qu'on pourrait faire la même chose en France? Pas la même chose qu'au Venezuela, mais avancer les festivités.
Avancer les festivités, je ne sais pas, mais il y a déjà une ambiance de Noël dans l'air, pour preuve, dans certains magasins, les décorations de Noël sont déjà là, et même depuis un moment.
Mais oui.
Dans la presse régionale, certains s'en étonnent. C'est le cas de la Voix du Nord, qui a repéré dans plusieurs enseignes, comme Action ou Emma, la présence de rayon entier dédié à Noël depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a même un magasin qui a mis à chalander son rayon Noël dès le 9 septembre. Sur vos écrans aussi, les fêtes sont déjà là. Le groupe TF1 est le premier à dégainer ce dimanche. TMC consacre sa journée au téléfilm de Noël.
Mais bien sûr.
Ça va commencer dès 8h45 du matin, notre bien Estelle.
Ah bah,
le téléfilm, c'est un Noël pour te retrouver. Sarah rentre dans sa famille en Louisiane pour fêter Noël.
Mais oui.
Cette année, c'est le 50e anniversaire du concours de Mister et Miss Noël organisé par la ville.
Et elle se présente.
Et non, elle a déjà gagné le titre de Miss Noël à l'époque avec son petit ami Luc. Et ce jour-là, il lui avait annoncé qu'il l'a quitté. Mais là, ils vont se recroiser.
Oh, j'adore.
TF1 entamera, elle, sa saison de Noël dès le lendemain, lundi prochain donc, avec mon conte de fées de Noël à 14h20, suivi de Noël au Château Enchanté à 16h. Noël, période sacrée, d'après un sondage Ipsos, 91% des Français déclarent le fêter avec entrain chaque année.
Alors, faut-il avancer les festivités de Noël pour retrouver le sourire? Gaël Mélule.
Non, mais peu importe, mais ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Dire, il y a plus aucune. Il y a plus de saison.
Merci, ma pauvre
Lucette.
Voilà. Alors, si maintenant on se met à fêter Noël en octobre, enfin, commencer dans l'esprit de Noël du mois d'octobre, à partir du mois d'octobre, enfin, je veux dire, il y a plus de rythme en réalité. Il y a plus de rituel. Il y a plus de repères.
On a besoin, en fait.
Moi, je suis une ancienne. Enfin, moi, j'aime avoir des.
Il y a des repères,
voilà, comme les enfants, en fait, aussi, comme les enfants et les anciens. Voilà. Donc là, ici en plus, on prend exemple sur le Venezuela, pardon.
C'était une petite accroche, voyez-vous. Mais quand même, vous voyez bien que tout le monde fait la tronche en ce moment. Et c'est normal.
On vient de sortir des JO et des Paralympiques.
Et quel rapport avec Noël ?
C'était la fête, non ? Pendant deux mois en France. On va tout le temps être dans un esprit de fête.
Vous préférez être dans un esprit de morosité, vous ?
Pas du tout, mais on n'est pas obligé de dépenser de l'argent comme ça tout le temps.
On n'est pas obligé de dépenser de l'argent beaucoup à Noël. On peut faire simple, vous voyez ?
Oui.
Un bout de ciel,
une orange,
mais non, mais on peut faire une féerie de nos intérieurs. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre une petite guirlande lumineuse. On peut démarrer le sapin plus tôt. On peut faire plein de petites choses. On peut commander sa dinde, se mettre dans le mood Noël, tu vois.
On peut s'entraîner à faire des bûches de Noël.
Mais oui, aussi.
Donc on va envaper le peuple en fait pour qu'il oublie que l'électricité va augmenter, que le pouvoir d'achat.
Mais guirlande lumineuse, c'est peut-être pas une bonne idée.
Des bougies.
Comment à faire son plan de table, à acheter. Parce qu'en plus, c'est moins cher. C'est-à-dire que vous achetez vos décorations de Noël.
Ça, c'est vrai.
C'est moins cher que le 22 décembre. Il y a aussi un esprit pratique. Tiens, vous, par exemple, je sais que vous êtes très attachée à Noël.
J'adore.
Juliette Briens.
Mais justement, c'est parce que j'adore Noël que je trouve assez insupportable que tous les ans, on repousse la date et qu'on le souhaite. Enfin, comment dire, qu'on le commence de plus en plus tôt.
On
l'avance, exactement. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Puis surtout, ça dénature Noël. Noël, déjà, à la base, c'est quand même... déjà, pour les chrétiens, c'est la naissance de Jésus-Christ.
Oui, oui.
Voilà, ça a un sens. C'est familial, Noël. C'est se retrouver en famille, partager avec ses proches un moment de convivialité autour d'un bon repas, etc. Et c'est pas la grosse fête du slip commercial. J'ai l'impression qu'on vampirise Noël, en fait. Tout le monde veut exploiter Noël jusqu'à la moelle, parce que c'est très bien.
On pourrait faire un pré-Noël.
Oui, mais non, mais justement, mais moi je trouve que ça dénature Noël. Donc Noël, c'est à Noël. Enfin, c'est un mois avant, c'est bien parce qu'on se met dans l'ambiance. Moi, j'adore Noël, etc. Mais là, dès le mois de novembre, vous pensez bien que TF1, compagnie et tous les
vous allez pas regarder dimanche peut-être.
Qui mettent leur déco.
Le conte de Noël enchanté là.
Leur déco déjà non, parce que je vais me forcer à attendre la date appropriée pour mettre dans l'esprit de Noël. Et puis tout le monde n'a pas les moyens de se gaver d'huîtres et de foie gras pendant trois mois. Quoi.
Mais personne ne dit qu'il se gave. Pas réveillonner.
Mais quoi les festivités de Noël alors, si c'est pas ça.
Mais les festivités, c'est quoi? Les festivités, c'est peut-être qu'il faut. Vous voyez, les marchés de Noël, bon, j'ai horreur de ça, mais c'est pas grave. Mais mettre des petits chalets un petit peu avant.
Bah non,
tu vois, mais il fait pas beau de toute façon. Mais on a rien d'autre à faire.
Ça, c'est du commercial. Bah si, on a des choses à faire. Et puis,
c'est ça, c'est faire dépenser de l'argent.
Oui, on vampirise Noël, c'est insupportable.
Imagine, s'il y avait un petit chalet de Noël devant chez vous, là, avec un peu de vin chaud, vous n'y iriez pas.
C'est pas la période, et pas non plus les décos dans la rue et tout, c'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Et ben là, c'est pas
l'heure.
Et en
c'est
plus,
l'heure.
Moi, je vous dis
on change
que l'année dernière, j'ai enlevé mon sapin Noël. On était le 1er mai. Donc
quoi
en fait, mon sapin en septembre, Noël, c'est toute l'année.
Tu le retires pas ?
Oui, non, je le retire pas.
Mais le problème, c'est que
j'ai eu la flemme et.
Moi, les gens comme vous, je n'ai pas.
Je me suis réveillée en mai, je me suis dit, putain, il y a encore le sapin Noël.
Le sapin, le 3 janvier, il dégage.
Mais du coup, je l'ai descendu dans la nuit parce que j'avais trop honte de descendre le sac devant tous mes voisins en mai.
Vous l'avez mis dans un. Parce qu'il n'y a plus de cimetière à sapin, là, en mai.
Non, mais voilà.
Vous avez les sacs sur le trottoir. Mais quelle honte. Et après, elle vient donner des leçons, c'est incroyable.
Non, là, j'avoue que j'avais pas géré sur ce coup-là. Donc si je le mets en septembre. Du coup, j'ai un sapin de Noël de septembre à mai.
Ouais.
Ça fait beaucoup, quoi.
Bah, vous pouvez mettre sur un autre arbre, une petite plante en pot, sur laquelle vous mettez des guirlandes.
De Noël.
Oui. Péricot, les gars. Vous aussi, vous êtes très attachés au rituel de Noël, je le sais. Et je sais que c'est vous qui cuisinez à Noël, c'est vous qui vous occupez de tout. Est-ce que justement, vous êtes du genre, dès octobre, à penser à votre menu, à commencer à penser aux cadeaux que vous allez faire, etc.
C'est le degré zéro du socialisme mercantile, cette idée. Je rappelle que Noël, ce n'est pas la naissance du Christ, parce qu'on n'a pas exactement la date de naissance. Ça serait plutôt en octobre, moins 4. C'est le solstice d'hiver, c'est-à-dire les jours raccourcissent, la nuit est plus longue.
Oui.
Donc c'est une cérémonie qui essaie de redonner un petit peu de vie avec les jours réduits, ça repart. C'est ça le symbole.
Mais comme il fait pas beau,
ça commence pas en octobre. Non, si c'était pour dire, il y a un peu de morosité sociale dans l'ambiance, les gens ont un peu le blues.
Oui.
On va faire en sorte qu'on va instaurer un peu de gaieté, un peu
d'appui,
voilà. Mais il y a d'autres moyens. On n'a qu'à faire une fête tous les mois. Vous avez Halloween entre-temps qui va arriver. Grâce
non, mais Halloween, ça n'a rien à voir, c'est américain.
Donc, c'est donc bien la preuve qu'on ne s'adresse plus aux êtres humains en tant que citoyens ou membres d'une nation, mais en tant que consommateurs.
Oh. Si, vous TF1, n'aimez pas Noël. Abandonné.
Si, si. Ah non. C'est une mesure consumériste. Estelle, soyez honnête.
Non, c'est une mesure consumériste. C'est pour avoir un peu de joie de vivre.
Non,
mais si vous ne voulez pas avoir de joie,
parce que
y a
c'est
pas
vrai, parce que ça ne va rien changer.
Non, mais restez chez vous sous la pluie.
C'est pas. Non, je vous propose de faire chaque mois, en fonction de la saison, une fête, une animation qui redonne du baume au cœur. Il y a 1000 possibilités. Vous faites une commission parlementaire sur la joie de vivre. Vous allez voir tout de suite
Thomas
des
Joly
propositions.
Va faire une cérémonie par mois.
Tout de suite.
Problème.
Il faudrait chaque parti. Un mois, c'est le RN qui propose. Le mois d'après, la France Insoumise. Oh. Ensuite, des Macroniens. Une activité, une animation, des danses, de la musique.
Non, voyez. Ils doivent bosser.
Non, mais si, ben, pour rassurer le pays, il y a des moyens de le faire. Mais allonger la date de Noël, la tirer. Et puis, on commence pas qu'au mois de janvier. Bah, tout à l'heure, d'un coup, vous avez fait une caricature. Non, ça ne marchera pas. Alors le risque, c'est quoi? Ça va dévaloriser et banaliser Noël. Et quand on arrivera à Noël, on ne comprendra pas la différence.
Parce que Noël, on sera blasé.
Non,
mais on n'est pas blasé, c'est juste qu'on prépare en avance. Alors, nous avons Adélaïde. Elle nous a écrit sur l'appli RMC. Adélaïde, elle nous appelle de Saint-Marc, en Seine-et-Marne. Elle est enseignante en collège. Bonjour Adélaïde.
Bonjour.
Et Adélaïde, vous faites partie de ces Français qui sont natalophiles, c'est-à-dire que vous avez une passion pour Noël. Adélaïde, vous commencez quand, vous, à préparer votre réveillon?
J'ai déjà commencé.
Attendez, mais c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que j'adore faire des choses par moi-même, donc là je suis en train de faire un calendrier de l'Avent pour moi, pour ma meilleure amie, donc j'achète des petits trucs régulièrement pendant l'année, et donc là je suis en train de faire le calendrier de l'Avent.
Mais c'est pas un peu tôt, enfin, si je puis me permettre, parce que c'est quand même dans 76 jours, Noël.
Ouais, mais il y a 24 cadeaux à trouver, donc c'est vrai que puis je le fais moi-même, donc je fais des bougies moi-même, puis j'avoue que l'ambiance est déjà là, parce que par exemple, bah, les livres de Noël, ils sont déjà sortis en fait, donc il y a un calendrier de l'Avent avec un livre mode calendrier de l'Avent, c'est un chapitre par jour, et il est sorti fin septembre, et si on attend pour le prendre, il est en rupture de stock, donc du coup...
Est-ce que ça coûte moins cher, parce que vous êtes une pro de Noël, Adélaïde, est-ce que ça coûte moins cher d'acheter justement les décorations de Noël, les petites bougies, tout ça, en septembre ou en octobre?
Alors, je sais pas, parce que vu que moi, je fais régulièrement des achats comme ça, je regarde pas le montant final.
Et elle ressemble à quoi, votre maison, au moment de Noël, enfin, c'est-à-dire de septembre à fin décembre, Adélaïde?
Alors, par contre, j'attends le 1er décembre pour mettre le sapin, mais le 1er décembre, je décore toute la maison.
D'accord. Et ça vous vient d'où, Adélaïde?
L'ambiance familiale, on a toujours fêté Noël en famille, le 24 en famille, le 25 chez les grands-parents, à tous déballer les cadeaux, les chacun leur tour avec un grand repas. L'ambiance familiale et la bonheur de se retrouver tous ensemble, c'est ce qui me... Puis ça motive avec le temps dans ce moment.
Vous allez regarder les téléfilms de Noël ce week-end, Adélaïde?
Peut-être pas dès ce week-end, mais j'aime bien. Après, il ne faut pas faire une overdose. Donc
c'est toujours les mêmes. Hein. Enfin, c'est la même chose. Hein.
C'est comme les romances de Noël. Je vais attendre Noël, même si je les ai déjà achetées. Elles sont sorties, elles commencent à sortir. On a même plein qui sont sortis aujourd'hui. Mais j'attends fin novembre, début décembre pour les commencer.
Eh ben merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage, Adélaïde. Je vois Perico qui est fasciné. Mais oui, mais il y a des gens qui font leur... Moi j'ai ma meilleure amie Armelle que je salue. Vous voyez, elle fait ses calendriers de l'Avent elle-même. Elle fait sa petite guirlande en bois flotté au-dessus de la table. Et par exemple, c'est le genre de personne à qui vous envoyez votre sapin. Vous êtes hyper content. Vous avez fait votre sapin, vous envoyez et elle vous envoie son sapin. C'est les Galeries Lafayette, c'est le Bon Marché. C'est voilà. Et donc en fait, vous êtes toujours en dessous. Vous voyez.
Je vais voir.
Il y a des gens comme ça.
Avec mes amis, voir si on pourrait pas faire une recette qui commencerait genre, vous voyez, cuire à 12 degrés la dinde, on peut la mettre au four en octobre.
À basse
température. Et le 24 au soir, elle est pile poil, elle est à point. Je suis sûr que c'est possible. Je planche sur le dossier tout de suite.
Mais arrête, ça doit marcher. En tout cas, on a plein de gens qui patientent au 32-16. Je viens juste qu'on présente notre invitée sur ce débat. C'est Patricia Mosdan. Elle est psychologue clinicienne et psychanalyste. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Mais oui, merci beaucoup d'être avec nous, Patricia. On se demandait voilà s'il fallait avancer les festivités de Noël pour retrouver le sourire. On a quand même l'impression que chaque année, bah, Noël, en tout cas le mois de décembre, c'est un peu une période féerique. Tout le monde est dans son réveillon. On a envie de se retrouver. On est tous amour et bienveillance finalement.
Oui, alors bon, ça c'est c'est pas toujours le cas pour tout le monde, malheureusement.
Oui, c'est sûr.
Mais on peut, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les boutiques sont déjà remplies de toutes les, comment dirais-je, les cadeaux, les décorations de Noël. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on avance, enfin, les commerçants avancent la date de Noël et les préparatifs. On a vu aussi des reportages de tous ceux qui ont la gentillesse et de plus en plus de faire des maisons formidables, entourées de guirlandes, de LED, etc. Et qui font des choses géniales et qui font ça toute l'année pour offrir aux autres une visibilité de Noël. Enfin, c'est assez sympa, ça.
Mais Patricia Mozzan, est-ce que pour le coup, ça vaudrait la peine quand même d'avancer ça, voilà, de 2 mois. Et je dis pas évidemment préparer la dinde de Noël, mais avoir plus de féerie dans les rues, par exemple, dans les magasins.
Mais moi, je suis pour les fêtes, je suis pour les féeries, je suis, effectivement. Mais malheureusement, l'année dernière, avec les économies d'énergie, etc., moi, je suis désolée, mais déjà qu'on remette les guirlandes, autant de guirlandes qu'on en mettait avant, parce qu'il y en a de moins en moins dans les rues, dans les villages, dans les villes, à cause des économies d'énergie, c'est déjà catastrophique. Donc, si déjà on nous mettait des villes qui soient joyeuses avec...